bienvenue avec Leïla Kadouri-Dadi, Morgane,
Camille,
Alexis Lanzo, Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure. Daniel Morin est déjà là.
Ah, oui, madame.
Nos invités.
Bonjour, Daniel.
Arthus et Gérard Jugnot.
Bravo,
bravo.
Oh. Ah oui, évidemment, bravo. Oui.
Félicitations.
C'est eux qui font tout le boulot quand même. Hein. Je le rappelle. Dans un film qui m'a fait pleurer de rire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant marré au cinéma. Ça s'appelle Pourri Gâté. C'est très, très bête par moi. Il y a des scènes, il y a des dialogues.
C'est crétinissime, mais c'est tellement drôle.
C'est très drôle.
Ça commence très fort avec la voix off de Stephen Bern.
Ouais. Oui, déjà. Monaco.
Monaco.
Petite bourgade.
Petit port de pêche.
Je joue très bien le jeu.
Ah, ça, il connaît. Hein.
On en parlera avec eux, évidemment. Le film sort le 15 septembre. Mais que faire comme blind test?
Les chansons pourries.
Pourri
gâté.
Mais sans blaguer. Faudrait que tu m'appelles pour me donner des idées.
J'aurais dû, tu décroches jamais.
J'aurais dû. Oui, parce que t'es pas masqué. J'aurais dû faire ça. Et pourtant, j'ai fait.
Alexis, dis quand reviendras-tu?
Non.
Non. C'est une comptine pour enfants, ça?
Non.
Cécile, ma fille?
Non. Oh.
Pardon. Comment se peut-il comme ça, Cécile, ma fille?
C'est vrai qu'il y a un petit côté Barbara dit quand reviendras-tu.
Français?
Oui, c'est français. C'est français, monsieur.
Cœur des pirates?
Ah, ça pourrait.
Natacha Saint-Pierre?
C'est récent, en tout cas. À la voix, vous avez reconnu tout de suite.
Yves Calvi?
Alexis Oshi?
Non.
Vianney?
C'est femme ou homme?
Il y aura les jours avec, les jours sans.
C'est femme.
Leïla? Oui, Christophe Maé?
Non.
Leur veste, rien de temps.
Daniel?
Oui.
Claudio Capéo?
Mais oui.
Oh non!
Grand dommage!
Mais oui!
C'est quoi le titre de la chanson?
Riche?
Riche. Ah ouais, ouais. Comme il est riche.
Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire.
Quelle qui chante ça?
Leïla?
Morgan!
Vas-y, c'est 50 Cent.
Dès qu'il s'agit de
la glissade,
dès qu'il s'agit de pièces jaunes, elle sait pas quoi dire.
50 Cent.
Oui. Donc vous avez compris le thème.
C'est une da club.
C'est laquelle?
L'argent.
C'est Candy Shop, non? C'est laquelle?
Ça c'est Pim.
C'est Pim.
Mais c'est 50 Cent.
Ah ouais, ouais. On va chercher. Oui.
50 Cent. Donc.
Daniel, all night long.
Oui, mais
quel rapport avec Daniel Ritchie?
Ah, Ritchie.
Ah oui,
ah, ouais, c'est ah, ça, ouais. Okay. Bon, je fais les blagues que je peux. J'ai fait tard, généralement.
Ah ouais, mais c'est un excellent jeu de nom, hein. Ritchie, oui.
De quoi pour Daniel, pour Leïla? Attention, qui chante?
Lumineurs?
Non.
C'est le Hey.
Laurent Delahousse?
Presque.
Leïla?
Oui.
Kenji?
Oui.
Et mon amour est des simples gestes. Quand tu perds tout, c'est ce qu'il te reste. Toutes ces richesses qui nous viennent du cœur.
Les richesses.
Les richesses.
Les richesses.
On n'a pas connu les mêmes.
Qui chante?
Morgan?
Oui.
Sixpence Non Richards?
Joli! Wow.
Ça ne rajeunit pas.
T'as le titre,
hein.
Voilà, c'est ça. Devinez qui chante.
Daniel.
Alexis.
Paul Naref.
Non.
Oui, c'est pas On ira tous au paradis.
Non.
C'est les Beatles?
Non. C'est un chanteur seul.
Paul McCartney.
Le Beatles.
Non, français.
Souchon?
Non.
Goldman?
Non.
Ah, ça ressemble.
Mais Gabriel.
Il a bossé, Paul Naref a bossé pour lui.
Claude François?
Non.
Bernard Tapie?
Paul Naref a bossé pour lui.
Le fisc?
Ça m'a mis la Leïla?
Daniel.
Sardou?
Non.
Johnny Hallyday?
Mais oui, Daniel.
Ah non, c'est vrai?
Yeah. Johnny.
Ah ouais, mais non, j'ai pas reconnu.
Ah, moi, non. Signe extérieur de richesse.
C'est bon,
on reconnaît sur le S de richesse.
Signe extérieur de santé. Bonjour.
C'est pas prudent dans le contexte.
C'est pas prudent.
Là, ça va être le banco, là.
Non.
Ah.
Il va arriver.
Non, non, le prochain.
Ah, mais Johnny signe XR de richesse pour parler de pourri gâté. On pouvait pas mieux trouver. Maintenant, ça rapporte beaucoup de points. La victoire.
Non.
3 points à qui?
Non.
Billy Joel?
Non.
Ah là là. Ah mais si.
Qui chante ça?
Vous dérange pas?
Non. Pas d'idée? Aucune? Un duo? Très soul, très R&B, énorme succès.
Les Charlots?
All and Oats. Ça veut dire rien.
Ah, non.
Ok, d'accord. Bon, et n'empêche que monsieur Daniel Morin a gagné le blind test pourri.
Grâce à Johnny.
Merci d'accueillir Gérard Junot et Artus.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Avec ce film donc qui nous a fait rire, voire pleurer de rire, c'est... je sais pas comment le
c'est
qualifier tellement.
Bête, ouais,
non, mais il y a des scènes. Alors il y a des scènes extrêmement émouvantes. Il y a des scènes extrêmement comment dirais-je de presque de suspense ou en tout cas de on se demande ce qui va se passer, de rebondissements. Et puis il y a des dialogues mais d'une bêtise. Surtout vous, Artus, arrêtez de faire grincer le.
Mais non, mais j'essaie de l'avancer parce qu'il est très loin. La personne avait une bouche très devant, non?
Non, la personne n'avait rien qui l'empêchait de s'approcher du.
Ah oui. Parler de mon sexe. Exactement.
Commence,
et voilà.
Les dialogues, Gérard Junior, est-ce que
de bêtises. Attendez. Soyons précis.
Oui, Gérard. Hein,
parce que, j'arrive là, je vous dérangeais en train de faire votre petit quiz là. Mais
la vedette, on parle pas de lui quand il est là.
Mon ego est rassasié. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est pas des dialogues bêtes. C'est des dialogues de gens bêtes.
Exactement.
Donc très finaux.
Vous avez raison.
Parce que l'autre idiot là, le monsieur très fort.
Votre fils.
J'entends parce que j'ai le casque en fait, donc j'entends ce que tu dis.
Ah oui,
entends. Et surtout, il n'est pas loin.
Oui, il n'est pas loin.
Faut se méfier.
Mais il tape très fort. Non, mais c'est une machine à conneries. Puis c'est un génie. C'est un génie absolu.
Ah, mais on est fan.
Parce qu'il y a beaucoup de... Bon, d'abord, il y avait des choses aussi écrites, ce que le metteur en scène est vert, parce que dès qu'il y a un truc drôle, il dit « Ah, bah, c'est Artus ». Ben non, ils auraient quand même écrit avec Laurent Turner, Nicolas
Cuche.
Mais moi, j'ai connu beaucoup, dans mon âge, vous savez, on se rappelait.
J'étais pas né, moi, quand vous étiez déjà une vedette.
Et il y a beaucoup d'humoristes, de comiques qui pompent énormément, hein. Il y a même des très célèbres.
Voilà.
De ma génération.
Bah, du coup, on embrasse.
Mais lui, c'est comme Jean-Yann. Jean-Yann, ça fusait de folie, et ben lui il est comme ça. Et moi il me fait beaucoup rire.
Est-ce que comme Jean-Yann, il le faisait sans lui, sourciller, sans sourire, en ne sachant pas pour l'autre, en tout cas en ne sachant pas si c'était une vanne ou pas. Il y avait toujours un moment de
non une grande sincérité
de flottement.
Non, parce qu'en plus t'enculé, excusez-moi. Oh là, c'est France Inter. C'est ton choix.
Il est placé, c'est bon.
Non, c'est idiot. Il est non seulement c'est un humoriste, c'est un mec très drôle, mais c'est un très bon acteur. Donc il y a la sincérité et même dans le film là, ok,
oui.
Dans la seconde partie où il est très touchant quoi. Dans le bureau des légendes, il est génial. Non, c'est...
Ah, vous êtes fan.
Je suis assez fan. Je peux pas en dire autant de Gérard parce que moi j'aime pas du tout ce qu'il fait, mais en tout cas vraiment.
Ben oui, il y a reste de trop parce que.
Mais
ce prénom m'énerve. Mais bon.
Pour en revenir à l'écriture de ce film, à ces dialogues, en effet, la précision et la nuance est importante. Ce sont des dialogues extrêmement bien écrits avec de très bonnes vannes qui vont dans la bouche de personnes qui sont faits pour montrer leurs limites.
Dire.
Et on y arrive. Très limité.
Ces limites, ce sont trois fils à papa, ce sont vos enfants.
Ouais, fils
et filles, des enfants à papa.
Ils sont tous les trois gratinés, quand même.
Qui sont pourri gâtés, c'est d'où le titre du film, finalement, bien trouvé.
J'ai jamais fait le lien. C'est dingue.
C'est France Inter, monsieur.
Et ils sont chacun dans un pourri gâté dans un domaine précis.
Oui, oui.
Totalement shopping pour la fille.
Oui, très acheteuse, très influenceuse.
Totalement paresseux pour.
Oui, lui, c'est un mec qui veut changer le monde sans changer lui, hein, quand même, et en gardant ses privilèges. Mais Arthus, dans le film, c'est peut-être le plus positif, parce qu'il a plein d'idées à la con, mais on sent qu'il essaye.
Avec mon pognon.
Il démérite pas. Il n'y a pas de maman. Il n'y a plus de maman.
Je crois que c'est le gros problème du film, d'ailleurs. C'est ça qui, d'ailleurs, donne la vérité et l'humanité. C'est que mon personnage qui a perdu sa femme il y a 15 ans, il a un peu baissé les bras par rapport à l'éducation et il a compensé avec le pognon et sa réussite personnelle.
Oui, il permet tout, il accepte tout et il a son Jimmy Cricket un peu, c'est François Morel qui est là pour le conseiller, qui est le parrain au sens familial du terme. Et qui lui dit mais est-ce que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe? Et en effet, on voit bien que ça va, on va pas les embêter. Ils sont déjà...
Non, je pense qu'ils se rendent compte, mais qu'il a baissé les bras. Et quand ça lui coûte quasiment la vie, puisqu'il a un petit problème de santé, il décide de leur donner une leçon. Et cette leçon, d'ailleurs, c'est ça qui est très joli dans le film, va se retourner un peu contre lui aussi. Il va en prendre une.
Il y a Tom Leb aussi qui a un rôle particulier, un personnage qu'il tient. On va pas dévoiler, on va pas déflorer, mais
il le fait très bien.
C'est pas facile.
Jusqu'au bout du film.
Il a un côté Julio, quoi. Finalement, hein, c'est ça.
C'est pareil,
le Juan Carlos qui est là, qui fait croire, qui est un peu le Picsou, quoi, qui fait croire qu'il a de la thune.
Il veut épouser ma fille.
Au bout de 2 mois.
Enfin, il veut pas épouser ma fille. Il veut épouser son
sa fortune.
Chasseur de dot.
Luca Meliava, Camille Lou, François Morel et donc nos invités Arthus et Gérard Jugnot. On va continuer de parler de ce film.
C'est un film qui fait du bien.
Voilà.
Je suis pas toujours fier des films que je viens de présenter.
On peut comprendre.
Ça peut arriver.
On en parlait hier.
Non, je pars toujours avec un bon esprit en disant celui-là va être bien et puis parfois on est un peu déçu. Et là, vraiment, je suis très fier du film. C'est un film qui fait du bien. Il est réussi. D'ailleurs, c'est ça qui est bien. Dans le mot réussi, on dit pour une comédie, elle est réussie.
Ouais.
Parce qu'il faut réussir à faire rire et à mélanger tout ça.
On dit ça
d'un film sérieux. On dit, hein.
On dit ça d'une tarte aussi. C'est pas faux. Ouais. C'est vrai, hein.
Faut pas s'enflammer non plus. Et d'ailleurs, on dit les moules à banquer.
On va continuer de parler de pourri.
C'est qui lui, là?
Je me demande si on n'est pas à la fin de l'émission, là, maintenant. Mais à ce moment précis. Voici Morgane Cadignan qui ne vous aime pas. Ni Arthus, ni Gérard. Morgane.
Voilà.
La hyène.
Alors, Gérard Jugnot et Arthus, on s'emmerde plus, on vient sans nom de famille, faire de la promo du coup, comme Nagui. Faut pas hésiter à en demander les copains des noms de famille, hein. Sinon, nous, c'est compliqué, on sait plus à qui on s'adresse. Daniel, par exemple, s'il n'y a pas Morin derrière, moi, comment je sais que c'est pas Balavoine? Là, non, mais j'ai un moyen mémotechnique pour lui. Quand il arrive en ville, si les gens changent de trottoir, c'est Balavoine. Si les gens changent de ville, c'est Morin. Arthus, en plus, vous êtes né au Chesnay, donc normalement, là-bas, c'est minimum 4 noms de famille avec une particule devant. Bon, Gérard Jugnot et Arthus Snow, je vous aime pas. Gérard, vous racontez en interview que c'est vers 8 ans que vous prenez conscience face à un feu de cheminée de l'existence, du concept de la mort et de votre propre finitude. Et que du coup, il fallait que vous fassiez quelque chose comme des films. À 8 ans, donc. Mon conseil, du coup, ne pas hésiter à mettre les enfants devant les écrans, hein, très tôt. Et pas devant les feux de cheminée, sinon les enfants, ça devient Gérard Jugnot. T'es là, t'es content, t'as un gamin qui va bien, tout sourire devant la patte patrouille, et un jour, plus de batterie dans l'iPad, et bim, ça devient Gérard Jugnot.
J'ai dit, oh,
oui, calme-toi, Arthus, on va aller au parc. Oula. Au lycée, vous rencontrez Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Michel Blanc, et c'est fou de se dire qu'une rencontre de cours d'école va naître des phrases cultes que 77 ans plus tard, je dirais moi dans ma propre cour d'école, parce qu'une réplique des bronzés bien placée pendant que tu te fais raqueter la gueule, bah ça peut te sauver une rotule et ton goûter, donc Gérard, merci pour ça. Et j'ai appris un truc génial en lisant votre biographie, c'est qu'à l'origine, le Père Noël est une ordure devait s'appeler le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul.
Mais
c'est
non.
Vrai?
Ça a été lancé comme ça.
Mais je suis dégoûtée.
Non, c'est pas ça. C'est que déjà on a eu du mal avec le Père Noël tirant une balle. On a été censuré.
Mais est-ce que ça a été envisagé ou pas?
Non, c'est Balasco qui a balancé ça une fois, je crois. Non, mais on a eu d'autres horribles. Mais c'est les séances d'écriture.
Comme quoi?
Non, je me souviens plus tellement.
Mais
c'est
si,
horrible.
Si.
Non, mais demandez à Arthus, s'il va vous en trouver.
Oui, non, hein, passons.
Non, mais franchement, je suis dégoûtée. C'était tellement bien comme titre. On peut pas le réappeler comme ça. On peut pas lui redonner ce titre juste pour voir Laurent Delahousse l'annoncer en fin de JT en décembre et tout de suite le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Bonsoir. Moi j'ai envie que tous les films s'appellent comme ça. Ça fonctionne avec tout. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui s'est tiré une balle dans le cul. Les 400 coups, 2 balles dans le cul. De Rouillé d'eau, c'est 2 balles dans le cul. Enfin bon, bref, vous avez compris. Arthur, vous.
Enfin, les 400 coups dans le cul, on l'a vu dans celui-là.
Oui, c'est bien.
On l'a fait.
Il est long.
Arthus, vous êtes.
Au bout du 200e coup, t'en as marre.
Vous êtes secours. je me suis tiré une balle dans le cul. Artiste, vous êtes comédien et humoriste. Vous jouez dans la pièce Duel à David et Jonathan, qui est en tournée depuis une trentaine d'années maintenant. Mais vous êtes aussi comédien et impressionnant, qui plus est, dans le Bureau des légendes. Franchement, depuis que vous jouez dedans, je finis plus une conversation sur la série sans que quelqu'un dise « Et Artus ?» et quelqu'un d'autre dise « Eh mais Artus, incroyable !» J'ai même fini par croire que c'était incroyable, votre nom de famille. Artus, incroyable. C'est sympa, ça fait un peu mentaliste, un peu ringard. Bon, mentaliste, quoi. Alors, aujourd'hui, vous venez tous les deux nous parler de Pourriété, une comédie sur un père, donc, qui veut donner une bonne leçon à ses enfants en leur faisant croire qu'ils n'ont plus de thunes et qu'ils vont devoir vivre dans une maison pourrie et travailler pour vivre. C'est marrant, mes parents aussi m'ont fait ça. La même blague. Bon, à la 20e année, j'ai trouvé la blague un petit peu longuette, mais bon, ça marche. Bilan critique, c'est un film drôle, tendre, avec un super casting, mais malheureusement, aucune trace de balle dans le cul. Dommage, il manquait vraiment pas grand chose.
Merci, Maria. Ah oui, pour y gâter, le père se rend compte que ses trois enfants partent en vrille et que finalement il risque de souffrir d'être aussi pour y gâter. Donc, il invente une ruine en disant voilà, bah, je suis ruiné, nous sommes ruinés, il va falloir qu'on se débrouille, qu'on se démerde. Et c'est ça le pitch du film. Ouais,
dans la maison où votre personnage a grandi.
Absolument. Et qui va finalement, lui, la restaurer, cette maison. Et c'est la symbolique est assez simple. Non, mais c'est...
Parce qu'il est maçon. Initialement.
Oui, c'est ça, c'est un entrepreneur et qui a fait une grosse fortune en travaillant comme une brute et il a délaissé ses enfants. Mais ce qui est joli dans le film, et moi on a fait beaucoup d'avant-premières comme ça pour essayer de comprendre pourquoi on avait fait ce film et à quel point il marchait.
Non, vous avez fait des avant-premières pour présenter le film, pour se rassurer, pour faire la promotion, ça c'est normal, mais j'imagine qu'on a un retour du public qui n'est pas toujours celui que l'on imagine, c'est-à-dire les premiers commentaires qui viennent ou les premières questions. À la fin du film, il y a toujours les séries de questions, non, Artus, à la fin des projos.
Là, moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que je.
Si on a fait des questions. Moi, j'ai fait des fins de projection et c'est tout.
Alors que disent
C'est très très enrichissant d'abord parce que et comme sur toute comédie, là, je parlais de réussir. Ouais. On ne sait jamais vraiment là où quelle est la scène la plus drôle. Et ce qui est très étonnant dans le film, c'est que les gens rient énormément et que il y a des gens qui disent mais à la fin j'avais la larmichette.
Évidemment.
Et ça me plaît beaucoup.
Évidemment.
Parce que je dois dire que j'aime ce cinéma où le rire allège le drame, où le drame donne du poids
non, mais
au rire.
Il y a des films aussi qui, et puis il y a quand même des valeurs qui sont, même si c'est pas une leçon de morale, même si c'est pas une, y a pas forcément quelque chose qu'il faut retenir comme leçon, mais en tout cas ça peut faire réfléchir certaines personnes, ça c'est sûr.
Absolument. Et dans tous les milieux en plus, c'est vrai que là on a mis les curseurs assez haut puisque.
C'est pour la comédie,
on est à Monaco, il y a de Pognon, ils vont à Marseille, après c'est vraiment.
Avec la voix de Stéphane Bern qui fait la présentation au début.
Et ils ont beaucoup rire,
très drôle.
À Monaco, ça les a fait beaucoup.
Même
rire.
Eux, c'est... Oui. Mais parce que vous avez filmé des yachts de 42 mètres en disant des bateaux de pêche. Et pour eux, ce sont des bateaux de pêche.
De pêche.
À moins de 100 mètres.
Tout était vrai dans le commentaire.
C'est un documentaire, en fait. Ouais. C'est ça.
Et alors, ce qu'il y a de plus dur dans ce genre de film, Artus, surtout quand on est auteur comme vous, punchliner aussi, comme le dit Gérard Jugnot dans La Vie, vous aimez la vanne, même quand il n'y a pas de micro, même quand il n'y a pas de caméra. C'est vraiment dans votre ADN.
On essaye, ouais.
Ouais, quand on se retrouve avec un texte écrit, et des dialogues au couteau, parce que je repense à la première scène, moi, qui m'a fait pleurer de rire, c'est quand les trois enfants s'auto-vannent comme ça, ça va à une vitesse phénoménale, ils s'insultent les uns les autres, mais c'est. Voilà.
C'est ça qui m'ouvre les yeux, quand même.
C'est, oui, voilà. Mais c'est tellement drôle. Et là, quand je dis que c'est au couteau, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'impro. On est obligé de s'arrêter exactement au mot utile pour l'autre, et ainsi de suite.
Ouais, en vrai, après, ça, c'est un deal qu'on fait avec le réal ou pas en amont. Moi, souvent, sur les films que je fais, je le deal un peu en disant voilà, est-ce que tu m'autorises à repuncher un peu à ma sauce les trucs et voilà.
Ils ont fait des lectures avant avec tous les acteurs. Non,
mais cette scène-là, par exemple, on l'a totalement repunché parce que par exemple quand je la traite de boule à facettes, c'est parce qu'elle a cette robe là et on savait pas au moment du film qu'elle allait avoir une robe à paillettes, donc c'est en fonction des vannes, le t'as du vomi c'est pas le mien, ça je l'ai fait, enfin, tu vois, c'est des trucs qui viennent
non mais l'échange gros c'est pas une insulte, code non plus, ça tombe bien,
mais oui, mais ça c'est pareil, c'est irrésistible. Parce qu'à la base les auteurs ils ont toujours peur d'écrire ce genre de vanne sur moi ou sur le poids, de se dire non, on va pas mettre une vanne sur le gros, il va pas accepter le scénar, et du coup c'est moi qui l'ai fait, qui leur dit non mais vas-y, dis-moi, et gros, c'est pas une insulte, ouais, ben conne non plus. Enfin, donc, c'est des trucs qu'on crée ensemble. Mais en fait, c'est pas... c'est pas de l'impro, évidemment, qu'en impro, c'est compliqué à faire ce ping-pong, c'est mais ça. C'est une impro qu'ensuite on fige.
Une construction voilà. que vous avez faite ensemble.
C'est des répétitions, voilà. ouais.
Mais ce travail-là.
Ça va vite.
Et puis Camille Lou, moi, j'ai trouvé formidable aussi parce que.
Elle n'avait jamais fait de comédie, elle. Et moi, je suis épaté.
Et hein. pardon, puis elle s'en prend plein la tête quand même.
Elle a ouais, mais on a envie de lui en mettre plein la gueule. Hein. Non, quand on voit le personnage, on a envie quand même.
Elle est trop jolie, c'est ça?
Non, mais parce qu'elle est quand même insupportable. C'est-à-dire qu'elle peut te faire aimer les gens qui vivent à Dubaï quasiment. Tu vois, tellement elle est, tellement elle est insupportable.
Oui, oui, il y a un côté influenceuse dans.
Ah ouais. Ouais.
Ah non, c'est une sale petite peste, quoi.
Mais très bonne comédienne. Moi, je parlais de l'actrice, hein, je parlais pas du personnage.
Ah non, mais nous aussi, on parlait de l'actrice. Ah oui, non, non.
Elle est patente. Bon, elle serait pas aussi laide, ça irait, quoi. Mais c'est comme Tom Leb. Ah, ouais. Crétin.
Je vois pas ce qu'on lui
dit. Il est drôle, il est sympathique, il est beau, il joue de la musique, il chante. Pff, bon, il doit y avoir un problème.
Ouais, il faut gratter. À mon avis, il y a un souci quelque part.
Il y a un souci.
Il y a un souci quelque part. Ce film, et enfin, je sais pas, vous en avez pensé quoi, les amis, Leïla?
Moi, j'ai trouvé que c'était hyper, hyper rapide dans la réplique et que ça laissait jamais une seule seconde. Et c'est ce qui crée, je pense, vraiment le comique. Et voilà pourquoi c'est réussi de ce point de vue-là. Et puis, c'est vrai que je suis comme Gérard Jugnot. Artus, à chaque fois que je le vois apparaître dans un. Je vous avais vu sur scène dans Duel à David et Jonathan.
Le meilleur titre du monde.
Et c'était un succès. Mais
personne n'arrive à le dire. Mais ouais.
Duel à David et Jonathan,
c'est oui, ça non, Town. C'est déjà mieux parce que ouais. là-bas, on a eu Toon. Le pire, c'est Laurent Ruquier, je crois, qu'il le sabote.
Mais oui, mais pour que le jeu de mots marche, il faut dire Town.
Non,
mais non Town.
David et Jonathan. C'est un western.
À mon âge.
Écoute, quand on écrit Le Père Noël a des balles dans le trou du cul.
Non, c'était pas ça.
Non, mais je l'ai vu. C'est magnifique. Bon, tu fais pas le détail. C'est quand même gros et demi-gros. ça y va. Mais dans le film, ce qui est génial, c'est que il est extrêmement drôle, mais sincère. Et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est pas un vanneur. Mais c'est pas de la bonne vanne comme
mais pardon,
ça.
Mais c'est le cas, au-delà de la qualité du jeu, c'est le cas de tous les acteurs. C'est-à-dire que les moments de sincérité, que ce soit votre personnage, que ce soit celui incarné par François Morel, les trois enfants, il faut qu'il y ait aussi un petit moment de sensibilité, de faiblesse, où l'on perçoit les flottements qu'il y a dans le regard de Camille Lou, qui voit la fortune fondre comme neige au soleil et donc sa vie s'écrouler. Même si on se dit bien fait petite garce, reine du shopping, on est touché, on est ému par cette vie qui s'écroule pour elle, parce qu'elle le fait sincèrement. Elle est sincèrement troublée. Et il faut, c'est ça la justesse dans la comédie aussi.
C'est
qu'il
aussi.
Faut. Ouais.
Artus, quand il dit on va aller à Marseille,
il a peur.
Il reprend le fusil, quoi.
Il le serre très fort.
Pour des monégasques, Marseille, c'est Bagdad, quoi. Pas envie, tu vois. Ils ont envie de
il y a aussi un truc qui est formidable quand je leur dis vous allez faire la seule chose que vous avez jamais fait dans votre vie, travailler. Et là, il y a un espèce de blanc. Il lui fait pas pardon.
C'est un mot, non, mais c'est un mot qu'ils connaissent pas.
Et pourtant, vous essayez d'apporter des idées à la
moi
compagnie.
J'essaye.
Vous essayez de lancer, de faire des start-up.
Évidemment.
Et notamment, vous inventez l'idée géniale de la chaussure à son pied.
Mais qui est une super. On est d'accord, c'est une super idée. Mais voilà, tout vous mettez combien?
Zéro.
Parce que vos chaussures, vos Louboutins qui sont pas toujours jolis, si quelqu'un vous les porte avant pour vous faire à votre pied, vous serez mieux dedans. On est d'accord.
Et je vais vous dire, c'est voilà. pas aussi con parce que c'est une vérité, ça.
Mais ça existe.
Jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas de gauche et de droite. Et les nobles faisaient porter leurs chaussures par des domestiques qui
pour les former.
Pour les former. Et
pour former les chaussures.
D'où l'expression faire chaussures
la à la reine d'Angleterre a quelqu'un qui porte ses chaussures.
Les embauchoirs, ça.
Mais il y a quelqu'un qui porte la reine d'Angleterre.
C'est un circuit court.
Ça s'appelle Pour y gâter. C'est au cinéma le 15. Artus et Gérard Jugnot sont nos invités. Voici Alexis Laurence.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Ça va bien, vous allez bien?
Yes. Oui.
Alors aujourd'hui, petite chronique sur les coulisses de France Inter, parce que vendredi dernier, c'était la fête de rentrée de France Inter. Alors on était tous invités, mais il n'y avait que Daniel et moi de cette émission.
Je me suis fait engueuler. Parce
tu
que
parles d'une bande. Dans l'équipe de Philippe Bertrand, ils étaient là tous les deux. Hein. Philippe et Bertrand. Moi, j'y suis allé parce que j'adore les fêtes d'entreprise. Les fêtes d'entreprise, c'est les seuls moments où tu croises des collègues que tu connais à peine, qui bossent pas dans ton service, mais qui viennent te dire des trucs du genre « Écoute-moi bien. Ton potentiel, il est pas exploité dans cette entreprise. » T'es là, ah bon? Ouais, il est pas exploité. Mais tu sais quoi? Moi, je crois en toi. C'est quoi ton prénom déjà? Remarquez, j'ai failli rater la soirée. Parce que c'était sur une péniche sous le pont neuf. Et j'avais plus de batterie dans mon GSM. Donc pas de GPS. Et moi, je connaissais pas le Pont Neuf. En arrivant à Paris, j'ai pas appris le nom des ponts. Pour moi, le Pont Neuf, c'était un pont neuf, un pont moderne, quoi. Donc je commence à chercher, je vois pas de pont moderne. Je suis sur mon vélo, j'ai faim, je pense au petit four. Je me dis, ils vont remballer avant que j'arrive. À un moment donné, je vois un panneau Ivry-sur-Seine. Là, je sens que je suis froid, quoi. Je fais demi-tour, je refais tout à l'envers. Seine-sur-Ivry, bibliothèque Mitterrand-François, île de la Tessie. Au bout d'une heure, j'arrête un monsieur, je lui dis, excusez-moi, monsieur, je cherche le Pont Neuf. Il me dit, sorry, I'm English. Oh, English. Ok. Excusez-moi, je cherche le Pont Neuf. Il n'a pas compris. En fait, le Pont Neuf, c'est le plus vieux pont de Paris. Tu m'étonnes que je ne trouvais pas. Et pour info, ça s'appelle le Pont Neuf parce que c'est le premier pont de Paris construit sans habitation sur le pont. Parce qu'avant, il y avait des gens qui vivaient sur les ponts, alors que maintenant, ils vivent dessous. Voilà, c'est le progrès. Bref, j'arrive avec 2 heures de retard. Heureusement, la péniche naviguait pas. Il n'y avait pas de vent. J'embarque, sur qui je tombe à l'arrière. C'est la Salamé. Elle m'a reconnu, j'étais content. Elle m'a dit la même chose que l'année dernière. Tout ce qui est livraison, c'est au premier étage, monsieur. Ensuite, je suis allé au bar. Il y avait des bouteilles de champagne dans des seaux. J'ai demandé une coupe, on m'a demandé 10 euros. J'ai demandé de l'eau. L'argent de vos impôts ne paye pas notre champagne, messieurs dames. Sachez-le. En revanche, il y avait des homards géants délicieux. Après, je me retourne, je tombe sur qui ? Laurence Bloch, la patronne. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette dame, quand même. Hein. C'est sans doute une des personnes que je préfère au monde. Et puis, je la trouve vraiment en forme pour son âge. Je lui ai dit, d'ailleurs.
Hein. Classe.
Non, mais c'est un compliment. Hein.
Ah oui,
c'est la même chose pour elle.
C'est gentil.
Pas pour Daniel, par contre. Elle m'a dit, on est content de vous avoir à l'antenne. Hein. C'est bien ce que vous faites.
Moi, j'étais là, bon.
Merci, je savais pas que ça vous plaisait. Elle me regarde, elle me dit, Emeric, si on vous aimait pas, vous seriez pas là. Alors, sinon, j'avais mis cette chemise pour être corporate. En fait, le rouge, c'était la couleur des serveurs. Pourquoi on me dit pas les choses à moi? À un moment donné, je croise Augustin Trapenard, il me donne son verre, il me dit la même chose, s'il vous plaît. Je l'ai regardé, j'ai dit, hey,
10 euros.
C'était quoi? Je retiens pas les commandes non plus, quoi. C'était du champagne, hein, qu'on ait moyen. Hein. En fait, j'ai passé la soirée à croiser des gens que je connaissais, mais dont j'étais pas sûr que ce soit réciproque. Du coup, je faisais des bonsoir, un peu timide, comme ça. Tu sais, un bonsoir timide, c'est un bonsoir sans le B. Bonsoir. C'est un bonsoir, tu sais, qui permet d'éviter de se prendre des gros vents, mais qui donne la possibilité à l'autre, s'il en a envie, de te dire bonsoir lui aussi, quoi. La personne avait envie. En fin de soirée, je me suis fait violence, j'ai aperçu Claude Askolovitch. Je lui ai dit quoi de neuf? Il m'a fait une revue de presse, putain. Il y a des gens qui s'arrêtent jamais. Hein. Bref, tout ça pour dire que vous auriez dû venir. En plus, on pouvait avoir un invité extérieur. C'est dommage que ma plus sain soit pas venue. J'aurais eu quelqu'un à qui parler. Merci beaucoup.
Merci, Alexis.
C'est vraiment 10 balles le verre.
Ouais, c'était pas gratuit, quoi.
D'accord.
Et on te retrouve, Alexis.
Non, moi, c'était gratos.
J'ai bien fait de pas venir.
On te retrouve au théâtre Le République jeudi et samedi. Voilà. Ah non. On te date.
Bonsoir.
Ça, c'est le 11 soir, c'est pas mal, le 11 soir.
Bonsoir. Bonsoir.
Moi, j'avais j'ai connu un monsieur qui savait pas quoi dire aux enterrements et son truc, c'était de dire marondinde. En serrant la main. Marondinde. Et ça marchait très bien.
Marondinde?
Oui.
Mais ça ressemble même pas à condoléances.
Non, mais c'est marondinde. Et ça marchait très très bien.
D'accord.
Moi, au McDo, je faisais ça quand j'étais jeune.
Marondinde?
Non, je disais bon moi le cul pour la sauce barbecue et ça marchait tout le temps. Je te jure. Il n'y avait aucun doute. Et en sauce, bon moi le cul. Très bien. Et je te jure. Au drive, testez-le. Vous dites bon moi le cul quand il vous demande la sauce, t'auras une sauce barbecue.
Et alors?
Sache-le.
Et vous voyez toujours?
On est resté en contact. Mais je te jure, ça m'amusait
hein.
Beaucoup. Ouais. Je le fais encore.
Mais dans le film, il y a des choses plus fines. Hein.
C'est vrai qu'on commence à en douter. Quoi.
Oui, mais tu sais qu'il y en a qui vont le faire. Mais c'est ça qui est,
c'est qui ça qui est drôle.
Voilà.
C'est
et ça va marcher.
Et tu sais que ça ne marche pas, mais qu'ils vont.
Non. Alors là, je me porte garant. Je rembourse le McDonald's.
Ah,
déjà. Non, mais si le bon moi le cul. Évidemment, faut pas dire bon moi le cul.
Faut pas avoir son t-shirt.
Faut pas être belle, quoi. Bon moi le cul. Ça marche pas, tu vois.
Ah, je vois que Morgane raye quelque chose sur son.
Sauf que il peut arriver autre chose.
Ce film a été. Ce film, revenons à Pourri Gâté, s'il vous plaît. Ce film a été tourné
quand j'étais jeune.
Un an et demi.
Il y a 2 ans. Oui.
Il y a 2 ans.
Ah ouais.
Ok, d'accord.
Bah oui, mais vous savez, il y a eu un problème.
Il paraît. Il y a des cascades aussi. Il y a une rigueur quand on tourne une comédie, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, on entend souvent que on rit quand on est au cinéma devant une comédie, mais pas quand on tourne la comédie parce que c'est justement très millimétré, très sérieux et qu'il n'y a pas de place à la plaisanterie.
Non, on peut revenir juste sur le. Il y a des cascades.
J'étais sûr. Arrête, il a dit comme ça, il a continué.
Oui,
il y a pas de cascades.
Il y a une descente de police, mais enfin, c'est pas.
Bah, si, c'est une grosse cascade.
Tu conduis une voiture de.
Oui. Non, mais c'est bien, c'est pour amener des gens.
Des accidents.
Il y a évidemment
des accrochages.
Le moment où The Rock il saute et que.
Si, si, y a une cascade avec Tom Leb et le club de golf. Et les...
Oui, il y a une cascade.
Oui.
Et les cascades.
On a vu le film.
La bouteille de champagne.
Il y a des cascades parce que des fois j'ai trois phrases de suite.
Ça, c'est vrai que c'était vraiment des cascades.
Non, mais.
C'était quoi la question, pardon? Qui êtes-vous?
Non, je.
L'ambiance sur le plateau.
Je disais l'ambiance sur le plateau. Est-ce qu'elle est.
Je dis pas plus rien, je dis plus rien. Non mais franchement.
Non, mais c'est évident que
on rit moins.
C'est très sérieux la comédie, mais en même temps entre les prises, puis avec l'autre, c'est impossible.
Il n'arrête pas.
Il n'arrête pas de dire des conneries.
On a un peu ri.
Et puis c'est vrai qu'on a une bonne complicité, qu'on s'est marré quoi.
Oui, ça a été une vraie rencontre surtout. Enfin, il y a toujours une personne avec qui on ça match vraiment, et c'est vrai qu'avec Gérard.
Vous avez essayé avec Camille, ça n'a pas marché, donc vous êtes retourné sur Charles Junior.
Exactement.
Vraie rencontre, on
Gérard. Gérard a bu le verre que je lui ai donné, et du coup, contrairement aux autres, du coup, on a fini la nuit ensemble.
Là,
au McDo.
Dans quelques instants.
J'en ai encore mal au dos.
Nous allons évoquer le héros du jour avec Daniel Morin. Nina Bataille sera avec nous. Elle est spécialiste de l'éducation et viendra nous parler justement des enfants pourri gâtés. Parce que, au-delà, j'ai bien précisé qu'il n'y avait pas forcément une morale dans le film, mais ça pose de véritables questions de savoir comment
gâter ses enfants sans les pourrir. Exactement. Et c'est dans tous les milieux. Hein,
c'est ce que l'on évoquera avec elle tout à l'heure. En musique, on va commencer par Artus dans les années 80.
Le pas boulou.
La déprime.
C'est là. Non, Artus, écoutez Pierre Bachelet. Il a grandi en écoutant Pierre Bachelet.
Bah, dans les années 80, j'écoutais un.
Vous étiez en train de naître.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et pourquoi Pierre Bachelet, pour vous, c'est la musique que vous écoutez à la maison?
Mais non, mais parce que je sais pas, quand j'étais enfant, je me souviens que les trajets en voiture, je sais pas, mes parents devaient être vraiment dépressifs. Parce qu'on écoutait que des chansons tristes, en fait. On écoutait ça. On écoutait, le cheval, là.
Jean Ferrat.
Le par-dessus.
Hugo Frey.
Ouais, c'est le Stu Ball. On écoutait Stu Ball. On écoutait Adieu, monsieur le professeur. Enfin, que des trucs.
Le par-dessus râpé aussi.
Et quand on partait en vacances, en plus.
Le par-dessus râpé.
Mon vieux.
C'est le par-dessus râpé. Que
Daniel Guichard.
Mais
les roses blanches.
Écoutez les chansons tristes, ça remonte le moral. Puisqu'on parlait du feu de cheminée. Oui. Je me suis soigné beaucoup avec Léo Ferré et tout.
Ah ouais.
En soirée, je mets que ça maintenant.
Tu me dis que tu es Léo Ferré, non?
On est en 87, Artus. Est-ce que vous étiez un gamin pourri gâté?
Pour y gâter, je sais pas, mais en tout cas j'ai été gâté, ouais. Parce qu'en plus j'étais
le dernier,
ouais. Donc c'est celui où
il y en a combien avant vous?
Il donne tout ce qui reste. Il y en a 5, mais c'est que des bâtards. On est que des... Nous c'est il y a un à ma mère, deux à mon père. Enfin, c'est
ils respectent rien.
Bah, c'est eux qui ont rien respecté.
Gâté ou gavé?
ça y est, d'accord.
Ah oui, ça taille
parce,
le poids.
Ouais, parce que dans les interviews, vous disiez que vous étiez un sale gosse. C'est quoi un sale gosse?
Ah oui,
à
ça,
votre
j'étais
façon
un sale gosse.
Ah. Il a pas changé.
Ah ouais, j'étais un. Bah, surtout, je pense qu'à partir du moment où on t'a demandé de partir de trois collèges, c'est que t'es un peu sale gosse.
Mais c'est quoi sale gosse?
Bah, c'est insolent, c'est.
Qui répond au prof?
Ouais, et surtout qui. Au nom de l'humour et de faire rire les copains, je pouvais aller loin.
C'est-à-dire
mais j'avais pas trop mauvaises notes.
C'est le tout blessé, tout pour la vanne.
Ah ouais, tout pour la vanne.
Mais aller loin, c'est-à-dire blesser quelqu'un au sens meurtre. Le faire pleurer. Non mais
meurtre. Bah oui, plus c'est.
C'est ouais, du ouais. Harcèlement aussi scolaire, c'est ça.
C'est démembré, c'est caché dans la forêt, c'est okay. Tout ça. Quoi. Non mais c'est.
Être méchant.
Non mais méchant, non, j'espère pas. Après, je pense que quand on est gamin, on n'a pas la même conscience. Ouais.
Et le goût de la déconne vient de...
Il l'a perdu avec le Covid.
De quoi?
Vient de mon père. Moi, j'ai grandi avec des parents très festifs qui faisaient la fête souvent à la maison. Et
bah,
mon père,
en écoutant ça dans la voiture, je suis pas sûr.
Mais... Ouais, mais en vrai,
dès qu'il sortait de la bagnole, par contre.
Mais, ouais. Mais c'était l'humour de Coluche, c'était l'humour des Monty Python, c'était l'humour, d'abord, c'est l'humour de cinéma, ou Gottlieb, les bandes dessinées, je sais pas, d'où viennent les vannes.
C'est plus, ouais, plus cinéma, plus les nuls, les inconnus. Les Monty Python, mon père qui m'a fait découvrir ça, mais voilà, c'est toutes ces bandes-là, mais plus le visuel, ouais.
Et la comédie vient pas tout de suite, en fait. Vous avez fait une formation de cuisinier?
Ouais, tout à fait. Ben parce que
vos parents étaient restaurateurs, je crois.
Ils ont eu un restaurant en Italie qui a pas marché parce que c'était pas bon. Et
c'est un critère, ouais, c'est important de le dire. Ouais.
Ça joue. Hein.
C'était de la cuisine italienne ou
Non, c'était de la cuisine française. Cuisine française. Non, en plus c'était très bien, mais ils étaient débordés. Enfin bref, c'était l'enfer. Et non, mais en fait, pour moi, c'était pas un métier d'être comédien ou d'être humoriste. Oui. Voilà. Encore plus avec ce corps d'athlète.
Gérard Jugnot, vous écoutiez fin des années 80.
Il mio rifu.
Ah ben, on retourne
grosse
en
ambiance.
Il mio rifu.
Quelle scène incroyable.
En remettant une bûche.
Je l'écoutais pas, mais on me l'a bassiné pendant tout un
non,
tout
et
un
Patrice Lecomte nous avait dit ici que cette chanson, à la base, c'était pas Richard Cochrane qui devait l'interpréter. Il avait composé, il avait écrite, mais il devait la donner à un autre chanteur.
C'était Gims.
Et quand Patrice Lecomte a écouté la version, évidemment, il a craqué dessus.
Et on va parler de tandem, Gérard Jugnot, et de la moustache.
Mais ça, c'est un petit peu la même chose que pour Artus par rapport au bureau des légendes. Quand on est un acteur marqué comédie, moi je n'étais pas humoriste, hein, mais je faisais des comédies, et d'un seul coup, dès que tu changes un peu, tu dis « Oh !» Moi j'avais été très marqué, très, très choqué d'ailleurs par un grand article, Jugnot enfin. Ce qui m'avait un peu fatigué, parce que je trouve que il n'y a pas de hiérarchie entre la comédie et le drame.
J'entends, mais alors vous auriez pu le prendre comme une reconnaissance, vous le prenez comme une insulte.
Pas comme une insulte, mais comme un agacement, quoi. Parce que,
on n'avait pas vu en vous.
Oui, j'avais fait 2-3 films comme réalisateur, j'avais fait pas mal de trucs avant.
Super,
mais, donc,
mais c'est passé par raser sa moustache, pour tout d'un coup, ne plus se ressembler et montrer qu'on est quelqu'un d'autre, c'est bizarre.
Oui, je sais pas, j'avais gardé cette moustache longtemps, parce que j'avais peur, parce que j'avais rien dessous.
Ouais.
Donc, et puis, je sais pas,
il n'y a pas de lèvres supérieures.
Non, je suis pas comme Rochefort, qui lui. Toujours garder sa moustache parce qu'il n'avait pas de lèvres, soi-disant. Mais non, c'était une histoire de changer, quoi. Lecomte, il voulait, comme on avait fait pas mal de choses ensemble, il voulait changer. Donc,
c'est son choix.
Surtout, il y avait la perruque aussi.
Ouais. C'est son choix.
C'était son choix. Oui, et moi, j'étais plus avec un moment de mon fils qui, elle, adorait la moustache. Donc, je me suis débarrassé de ça et j'ai trouvé ça, à la réflexion, totalement idiot d'avoir gardé cette moustache ridicule pendant si longtemps. Mais ça m'a fait travailler un peu plus vite parce que ça m'a vieilli.
Ah oui.
Ça m'a vieilli. On me donnait des rôles de. Parfois, l'autre fois, je me souviens, j'avais fait une pub, il me dit ouais, on va vous donner des enfants de 15 ans. Et j'avais 22 ans, donc c'était quand même très, très curieux. Quand même.
Mais déjà, gamin, je crois, là, à l'école, vous mettiez une moustache sur les spectacles.
Oui.
Ça vient de loin, la moustache. C'est pas juste
Je faisais un ancien combattant à 8 ans, donc c'est vrai.
Déjà
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que j'avais une perruque, et ma pauvre maman, qui n'est plus là, voit le film, et elle me dit mais t'as changé de coiffure ? Et je dis, mais non, je suis chauve.
C'est mignon.
Elle n'avait pas remarqué.
C'est mignon.
J'avais une perruque.
C'est mignon. Dans les années 2010.
Excusez-moi. Bon, aujourd'hui. C'est Rochefort qui était vert parce que lui, s'était fait une tête de cul avec une petite moustache, les cheveux gominés, retins et tout. Et il me dit, tout le monde dit que tu t'es fait une composition et moi, personne ne voit que j'ai une tête de con. C'était très, très rigolo.
En tout cas,
c'est un beau souvenir.
C'est un film qui, dans le monde de la radio, en tout cas, est bouleversant parce qu'il parle de cette déchéance. D'animateurs à succès et
à qui on va supprimer l'émission,
c'est ça.
D'ailleurs, je voulais
me prévenir. T'es gentil. En 2010, Artus, vous écoutiez.
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime.
C'est pas Véronique, ça.
Non, c'est la version du film, justement, Tout ce qui brille. C'est Leïla Bekhti et
Géraldine Nakache.
Géraldine Nakache, merci, qui chante ce titre. Non, mais qui l'ont remis au goût du jour en même temps. C'est redevenu un énorme succès grâce à ce film.
On est en 2010, Artus, et vos parents vous poussent sur scène, littéralement.
Ah ouais.
Vous avez fait des. Après avoir été la cuisine, les études de cuisine. Vous êtes allé dans des cours parisiens, cours Florent, je crois que c'était pas complètement votre truc.
Non, je suis pas resté très longtemps. je suis parti à 3000 euros.
Ah ouais. Vous avez poursuivi d'autres formations de théâtre à Paris.
Quel talent.
Et à un moment, je crois que vos parents se sont dit, maintenant, t'as 22 ans, c'est parti, faut y aller. Donc ils vous ont loué une salle au Festival Off d'Avignon.
Ouais, ils m'ont pris une salle au Festival d'Avignon, ils m'ont dit, t'as plus qu'à écrire un spectacle.
Ils vous ont produit, quoi, en fait, ouais.
Ouais, ils m'ont dit, voilà, maintenant, vas-y, au pire, tu... Moi, j'avais mon diplôme de cuistot, donc au pire, je repartais dans la cuisine, et voilà. Et cette chanson, elle marque bien cette époque-là, parce qu'en fait, c'est une chanson où j'ai rencontré beaucoup de gens du métier qui sont encore aujourd'hui des copains au Festival d'Avignon. Et c'était la chanson qu'on mettait le soir, avec un petit peu d'alcool quand on était bourré. Pour, tu sais, c'est le moment où tu dis que t'aimes tes amis et que t'es bourré et que tu fais ah, je vous aime, putain, machin.
T'es mon frère.
Ouais, c'est ça. Et que t'embrasses et que machin. Et du coup, ça fait du coup 10 ans que maintenant, dès qu'on se réunit tous, là encore cet été, on était tous en vacances ensemble et on a mis cette chanson à un moment parce que voilà, c'est. Ça parle, enfin, c'est justement ce côté drôle de vie où je passe de cuistot à cette drôle de vie. Ouais.
Et pour revenir à la pression quand même, parce que les parents louent une salle, vous devez écrire un spectacle et ne pas les décevoir, la pression est sérieuse quand même, non ?
Ouais, la pression est sérieuse. En plus, il y a un enjeu financier. Mes parents sont pas blindés et un festival d'Avignon, ça coûte cher une première année. Donc il y a un vrai truc de voilà, puis quand on n'est pas connu à Avignon, c'est on tracte du soir au matin. Ah ouais. Moi je suis vraiment nul pour me vendre, mais donc vraiment les gens ils me disaient c'est quoi, c'est moi. Ok, mais vraiment, t'as les mecs à Avignon, ils sont champions du monde. Venez voir ce spectacle, il est super, il est génial, le meilleur d'Avignon. On a été. Tu mec, c'est de toi que tu parles comme ça. Putain,
t'y crois.
Putain, ça va, tu t'aimes. Hein. Et moi, j'ai toujours eu du mal, mais on a fait une moyenne de 22 spectateurs, je crois.
C'est bien.
Qui est pas mal.
Payant.
Ouais, au théâtre Notre-Dame.
Payant.
Non. En payant deux. Ouais. Moyenne sur tout le festival. En payant.
C'est bien.
Mais et puis c'est surtout j'ai eu un petit buzz chez les pros entre guillemets, donc j'ai l'équipe de Laurent Ruquier qui est venue, qui m'a proposé de faire derrière.
On ne demande qu'à en rire.
On ne demande qu'à en rire et tout est parti, voilà.
Donc, avec, je sais pas, plus de 80 participations, je crois, à l'émission.
Ouais, c'est ça, avec les primes, ouais. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, entre la fois où je monte pour la première fois sur scène faire mon spectacle et ma première télé, il y a eu un mois, je crois. Il y a eu le mois d'août, en fait. Et puis après, ça s'est pas arrêté. Donc, j'ai jamais eu le temps de réaliser, de me dire, donc la cuisine, j'abandonne. C'est bon, en fait, tu vois.
Et comment remercier ses parents après ça? Parce que finalement, si vous n'avez pas poussé à aller à Avignon...
Un plat pâte, un bœuf bourguignon.
Ouais, bah après, ça va, je l'aurais remboursé, et puis ça va, on ne veut pas non plus, tu vois.
Non, sérieusement.
Non, mais
c'est leur rôle,
déjà j'en parle souvent, donc voilà. Ouais. Et puis, on travaille ensemble aussi, avec ma femme, mes parents, je travaille en famille. Et puis, en essayant de leur faire le... Mes parents, ils adorent... Ils sont très télé, très radio, donc voilà, quand ils rencontrent des gens comme Nagui, comme tout ça, c'est ils kiffent. Donc quand ils viennent aux avant-premières, ils sont fiers. Et quand, c'est comme ça qu'on essaie de les... Puis au moins, ça me coûte pas cher.
Tu m'as jamais présenté tes parents, ça c'est moche.
Ben non, ils sont jamais venus à une émission.
Moi non plus, non.
C'est la prochaine fois que je fais une émission avec toi, je les ramène.
C'est rare.
Moi non plus. Eh ben, ils sont là.
Gérard Jugnot, vous...
Ils sont bien, je les ai pas vus tes parents. Moi.
T'as pas rencontré mes parents?
Non.
Vous écoutiez... Donc, il est mytho, en fait.
Ils sont pas venus à Marseille.
Il est folle, en fait. Ouais, il a pas de parents. En 2010, vous écoutiez Gérard Jugnot.
Sur les quais des gares, les petits trains sont...
En 2010?
Ouais. En 2010.
En trois bons...
Mais non,
j'ai... En 1910.
Non, en 2010.
Très content que vous ayez retrouvé.
Vous nous demandez, on cherche.
C'est Roger Riffard.
C'est Roger Riffard.
Pourquoi?
Parce que j'ai profité de cette émission pour écouter. Parce que j'écoutais pas ça. Mais le personnage était formidable. C'était un copain de Romain Bouteille. Et Roger Riffard, qu'on connaît mieux parce qu'il avait fait des pubs. C'est pas des chips, c'est des chipsters. Je sais pas si vous vous rappelez
très bien.
Et qui était un petit bonhomme assez formidable, qui est malheureusement, on en parlait avec Morel, malheureusement il est mort le même jour que Brassens, donc on n'a pas beaucoup
parlé.
Mais c'était un...
C'est comme Cocteau et Piaf.
Ouais, c'était un petit bonhomme qui écrivait des petites chansons comme ça, mais j'écoutais pas ça d'ailleurs, j'ai écouté une chanson et j'ai profité de cette émission pour essayer de...
pour nous foutre la zone, quoi.
Pour
nous
foutre la zone, oui.
très bien.
Moi j'écoutais surtout Bob Dylan, donc, mais j'ai déjà parlé.
Et à cette époque, vous étiez sur scène pour la pièce Le Paquet.
Peut-être, oui. Oui, sans doute.
C'est
encore
vrai,
quelle année?
Monologue 2010-2011.
Oui, c'était un seul en scène, ça, oui, j'aurais pu m'abstenir.
Pourquoi?
C'était écrit par Philippe Claudel.
Ouais.
C'est du Beckett Light. Et ça n'a pas,
été un gros... son public?
Non, parce que les gens ont cru que c'était un one-man show un peu drôle. Il y avait des choses drôles, mais c'était surtout assez désespéré. C'était pire que le...
La cheminée?
Que la cheminée. Très difficile à jouer parce que toi, c'était un mec un peu fou qui parlait de sa solitude. C'était atroce.
Mais pourquoi vous avez accepté?
Oui, c'est ça.
Parce
pourquoi
que je sais pas, je sortais d'un échec
d'une
cuisant.
Dépression.
D'un échec cuisant et je me souviens avoir appris le texte en Bolivie quand je faisais En Terre Inconnue et j'en ai bavé sur ce texte. Mais c'était une gageure. C'est des fois, c'est parfois quand je fais des films et que je me mettais en scène, je crotte sur une scène, je m'impose le lendemain un plan séquence pour me meurtrir et pour me dire que je vais peut-être y arriver.
En 2017, Arthus, vous écoutiez This Is Me. Qu'est-ce que ça évoque, ouais, cette chanson pour vous?
C'est de Roger Riffard aussi.
Bah, Artus et Gérard dans une voiture, on se demande qu'est-ce que sera la programmation musicale. Mais alors donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Non, mais parce que 2017, c'est le moment. Donc il y a eu les années On ne demande qu'à en rire. Il y a eu tout ça, et puis
Et duel à David et Jonathan.
Et le bureau des légendes, ouais, qui se tourne à cette période-là, et Danse avec les stars où je rencontre ma femme. Donc c'est un moment où This Is Me, quoi. Et ouais, là je deviens entre guillemets moi, et celui, et même surtout sur le look, sur le, en fait j'assume tout et je m'en branle de tout, et voilà.
Et
donc
vous sentez folle. Mieux, c'est-à-dire que c'est vraiment vous sentez un changement dans votre bien-être perso?
Ouais, ben oui, tout à fait, parce qu'en plus moi j'ai toujours été très angoissé, surtout sur la mort, le machin, vraiment, voilà. Ah bon, et c'est un moment dans ma vie où il y a un côté, ouais, vas-y, on
se fait lâcher prise. Ouais,
ouais. Show must go on, quoi qu'il arrive, on va y aller.
Et à cette époque, quand vous faites Danse avec les stars, vous présentez à la production du Bureau des légendes, c'est-à-dire que vous présentez spontanément?
Alors, en fait, c'est mon agent à l'époque qui m'a mis sur ce casting. Et donc, moi, j'y vais en me disant, franchement, je perds une heure de mon temps.
Ils me prendront pas parce que je fais Danse avec les stars, ou
non,
ils prendront pas.
En fait, j'avais pas dit oui à Danse avec les stars. J'aurais pas fait Danse avec les stars si j'avais pas eu le Bureau des légendes.
Ah.
Voilà, c'est stratégiquement, comme je voulais pas me fermer toutes les portes et que le cinéma, enfin,
plan de carrière,
et que Danse avec les stars.
Ah, il réfléchit, gars. Hein. On dirait comme ça qu'il est bête, mais
Danse avec les stars, c'est quoi?
En vrai, c'est une fois que j'ai eu le Bureau des légendes que je me suis dit, ok, je fais Danse avec les stars.
Et ils ont pas râlé au Bureau des légendes que vous fassiez Danse avec les stars?
Non, ils ont râlé. Moi, j'avais peur déjà, justement, en sortant de Ruquier et tout, qu'ils disaient, ok, vas-y, humoriste. Sauf qu'en fait,
ils ont vu un bon acteur.
Eric Rochand n'a aucune idée de ce que c'est.
On est un peu au pays des étiquettes. Hein, ouais. Vous savez,
et
vous
c'est
savez
quoi l'intérêt de faire Danse avec les stars? Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter? Non, au-delà de l'argent, j'imagine, il y a un cachet qui n'est pas inintéressant, c'est ça? Ou pas du tout?
Oui, mais pour le coup, ça, c'est.
La notoriété?
C'est pas une motivation. En fait, c'est le challenge, je crois, qui me plaisait de. Et puis le côté un peu, j'ai pas envie de dire porte-parole des gros, mais de montrer, je savais que j'avais le rythme et machin, et de montrer que, voilà, peut-être vous êtes venu m'appeler pour que je sois le gros ridicule sur le parquet, je vais vous montrer qu'en fait je peux vous faire un petit doigt d'honneur et vous dire, voilà.
Il y avait Camille Lou aussi dans.
Ouais, tout à fait, la même saison. Exact. Et on est arrivés en finale tous les deux.
Et il y a Nina Bataille, tiens, puisqu'on parle de finale. Bonjour Nina, bienvenue. Vous êtes coach, conférencière et auteur. Et vous avez écrit de nombreux livres comme Je me fais obéir sans crier ou 50 phrases pour aider son enfant à gérer ses colères aux éditions Larousse. Tout à l'heure, Gérard Jugnot a posé la question, c'est comment gâter ses enfants sans les pourrir.
Il a dit aussi quelque chose d'intéressant. Comment
il a dit plein de trucs intéressants.
Plein de trucs intéressants.
Très intéressant.
Comment les gâter sans les gâter? Parce qu'il y a une double définition du mot, hein, ouais, si on reprend.
Pour les fruits.
Voilà.
Merci, c'est ça. Gérard.
Gâter, c'est combler, c'est aussi dénaturer. On gâte ses dents avec le sucre, par exemple. C'est Charlie et la chocolaterie. On peut faire quelques petites références cinématographiques avec Veruca Salt qui finit avec les noix pourries parce qu'elle est triée avec les écureuils comme étant pas saine. Parce qu'elle, c'est une petite peste gâtée, pourrie par ses enfants. Et c'est difficile de pas gâter ses enfants dans tous les milieux. Comme vous disiez, on n'est pas obligé d'aller à Monaco. Même à Marseille, on gâte sans doute trop les enfants dans les milieux populaires. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui valorise le plaisir immédiat, il faut absolument satisfaire tous ces plaisirs, alors les parents ils tombent facilement là-dedans. On peut obtenir en un clic un vêtement, de la nourriture, un pot de peinture, alors on croit que la vie fonctionne comme ça, mais l'éducation ça fonctionne pas comme ça évidemment. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment les parents dans ce contexte-là ont vraiment un rôle à jouer pour aider les enfants qui sont dans la satisfaction de leur bon plaisir en permanence, mais comme nous adultes, hein. Sauf que les enfants c'est encore pire.
Donc il faut mettre des limites, il faut savoir s'arrêter.
Il faut inculquer le sens de la patience, de l'effort et de la persévérance. Et c'est ça qui va modifier les connexions cérébrales dans le cerveau. Aujourd'hui on le sait en neurosciences, hein, Ali Rebeilly en parle beaucoup juste avant vous. Et c'est ça qui fera que à l'âge adulte ils seront capables de résister au plaisir immédiat.
Alors,
et donc de pas tomber dans les addictions
frustrées.
Comment arriver à cette prise de conscience?
Alors comment on peut arriver? Alors
par
l'éducation,
par des règles de vie, en disant tu laves la voiture et tu auras 5 €,
tu laves la voiture parce que tu fais partie d'une équipe, famille, et tu laves la voiture, moi je te repasse ton linge et toi tu laves la voiture. Chacun fait sa part dans cette petite famille.
Tu te fais arnaquer là.
Tu te fais
arnaquer depuis le départ.
Alors, les 1000 euros surtout.
Ce que je peux vous proposer, c'est trois petits trucs. Si vous voulez.
Vous
pour,
en priez ouais.
Déjà, il y a quelque chose qui m'a parlé tout à l'heure. Quand vous dites travailler, et là, il y a le blanc là. Ils ne savent pas ce que c'est.
Ils sont ouais.
Alors, moi, je l'explique un petit peu de la même manière aux parents. C'est l'histoire de droit, devoir, loisir. Les parents et les enfants, ils confondent les droits avec les loisirs déjà. Donc, les droits, si vous allez sur le site du gouvernement, il n'y en a pas beaucoup. On a le droit à une protection juridique, on a le droit de vote, etc., etc. Les devoirs, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir s'offrir des loisirs, remplir son frigo avec ce qu'on veut, partir en vacances, etc. Donc quand tu rentres de l'école, ok, tu fais un petit break, mais tu fais tes devoirs avant de faire tes loisirs. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'as pas de loisirs. Sauf si tu tombes dans la famille de Gérard Jugnot et Artus, où là, il n'y a que des loisirs et il n'y a pas de devoirs.
Il n'y a pas de devoirs.
Mais là, on voit ce que
Francis
ça...
Francis Bartek, pas Gérard Jugnot.
Pardon.
Le personnage. Oui.
Donc, voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est on peut les faire réfléchir à qu'est-ce qui s'achète et qu'est-ce qui ne s'achète pas. Alors, qu'est-ce qui s'achète ? Alors, qu'est-ce qui a de la valeur et qui s'achète ? Alors, selon leur âge, ils vont vous dire, je ne sais pas, mon doudou, ma console de jeux vidéo, mon téléphone portable, ça dépend de leur âge. Maintenant, qu'est-ce qui ne s'achète pas ? Alors, selon leur valeur, ils vont vous dire l'amitié, mon frère, ma sœur, l'amour, j'en sais rien.
Oh. Et... Ça peut s'acheter.
Et
mes parents payaient des amis.
On parle d'un enfant, pas un animateur blasé.
Après, on peut établir une espèce de hiérarchie. Est-ce qu'on peut tout acheter ? Et qu'est-ce qui a le plus de valeur entre ce que tu as matériellement et
pardon, la valeur de l'argent, un enfant ne l'a pas, et tant mieux quelque part, mais comment lui donner cette valeur de l'argent ?
Si ce n'est
par, entre guillemets, un travail et dire, par exemple, à 16 ans, dire à un enfant, l'été, tu bosses, tu vas te rendre compte des heures qu'il faut pour. Oui, mais c'est à 16 ans.
Ouais.
Il faut peut-être commencer plus tôt, non ?
Il faut commencer tout
pas
le temps.
Je ne vais pas les faire travailler, rendre compte que.
À 6 ans, tu l'envoies au Bangladesh 2 semaines, il revient, il est au top. Hein.
Non, mais je pense que des enfants ont souvent dit, et encore une fois, quel que soit le rang social, papa, maman, t'as pas d'argent, bah va à la banque, va au distributeur, t'auras l'argent. Comment expliquer que comment fonctionne la société en termes de travail, argent, valeur et dépenses.
Je pense que déjà, les faire participer aux tâches collectives dans la maison, c'est déjà une bonne chose.
5 euros.
Non,
mais c'est vrai qu'il y a l'attestation de l'argent.
Après, 5 euros ou pas, c'est comme vous voulez. C'est encore
non,
une
je
fois,
blague, j'en sais rien, mais c'est vous, l'excusez-moi, c'est pas moi.
Ah ben non, mais moi, ça c'est une question de valeur. Donc moi, j'ai pas à vous donner de
vous n'avez pas de valeur,
d'idées.
Madame.
Mais comment lutter contre l'argent facile, entre guillemets,
mais il faut leur donner.
Les influenceurs à Dubaï et compagnie.
De leur expliquer que c'est pas la vraie vie, tout le monde arrive quelque part par son travail, déjà. Vous êtes tous arrivés là par votre travail. Enfin, je trouve que vous avez déjà donné.
Après, on connaît du monde aussi. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est sûr. Bon.
Même coucher, c'est un travail.
J'ai perdu mon fil.
Parce que nous
avons tous travaillé pour en arriver là.
Coucher, c'est un travail.
Et puis,
c'est droit, devoir, loisir. Ouais, ça,
regarde.
Et ça marche à tout âge.
Regarde là, toi, t'as la chance de faire ça.
Vous tutoyez Nagui maintenant.
Oui.
Non, j'imagine un enfant.
Moi, je l'ai vu l'enfant.
Laissez-la parler, je vous en supplie. Elle va pas y arriver, la pauvre.
Je sais pas, on t'a offert telle vacances ou, tu vois, ça, c'est la valeur de 5 PS5, par exemple. Tu vois, là, ce qu'on vient de t'offrir, c'est des choses comme ça, donner des repères comme ça, et puis leur faire comprendre que, tu vois, un tel dans ta classe ou avec qui que tu fréquentes, il n'a pas les moyens de faire ça. Donc, c'est une chance que tu as. Donc, faut le savourer, ça ne durera pas toujours. Et puis, encore une fois, le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant, et je pense que
c'est
vous
une
l'avez...
Rolex.
C'est une Rolex et le Quel temps con. Et l'attention.
Absolument.
Et là, on peut reprendre
et de partager des moments avec eux.
Et lui faire écouter la chanson de Souchon, Foule sentimentale. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir des quantités de choses dans
exactement.
Nos armoires qui donnent envie d'avoir autre chose.
Être et avoir. Et quand on connaît Arthur Jugnot, on sait qu'il avait été bien élevé par son papa. Merci
non,
Nina Bataille.
La seule chose que je lui ai dit, moi, c'est que tous les plaisirs, les bonheur, les satisfactions qu'il aura dans la vie, ce sera lui qui les aura créées, et pas parce que c'est mon fils ou parce qu'il aura hérité de je ne sais quoi.
Et c'est le cas. Et il monte des spectacles et il s'occupe d'un théâtre, du Splendide.
Putain, Gérard Jugnot, c'est ton fils.
Mais oui.
Arthur Jugnot.
Merci Nina Bataille.
Merci.
Bonjour Tanguy Pastureau, de quoi allez-vous parler aujourd'hui ?
Je vais parler du Mexique qui va remplacer une statue de Christophe Colomb par celle d'une femme indigène. Ouais. Ça vaut bien le coup de s'ennuyer à traverser la mer pour se faire piquer la place par une inconnue. Quoi.
originale avec les Yakato Bouchevi, Morgane Casignan. Oh, j'entends ces applaudissements là. Alexis Le Rossignol, Tony Pastureau, Daniel Morin et nos invités Artus et Gérard Chouinard.
Bonjour.
Cinéma avec Camille Lou, avec Luca Mediava, avec Tom Leb, avec François Morel, tout ça sous la direction de Nicolas Cuche. Comment il vous a présenté le film? J'imagine que lorsque des projets comme ça se montent, il y a, je sais pas, un pot qui est pris entre le réalisateur et un acteur après avoir fait une lecture, et puis il y a des échanges. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le vois? Enfin, je sais pas, il y a ça.
C'est un peu vous foutre.
Justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment ça se passe?
Oui, non, mais c'est ça. Nous appelle. Bah après, moi, ça a été très simple parce que je crois que Gérard, t'as rejoint le projet assez tôt.
Ouais,
donc quand on t'appelle, j'ai pas terminé. Tu me laisses là. Dernière fois. Non, et quand on t'appelle, oh là, je vais me lever. Tu vas en prendre une thème.
Enfin, bon,
non, mais quand on t'appelle et qu'on date. Oh, tu te calmes, hein.
Oui, oui.
Non, on fera pas un vieux.
Quand tu te dis, tu vas jouer avec Gérard Jugnot, est-ce que ça te dit de faire un film? Ouais, pourquoi pas. Il y a qui Gérard Jugnot. Tu dis, bah, ok, vas-y, on voit le scénar, mais je vais le lire juste histoire de le lire, mais bien sûr que j'ai envie de jouer avec Gérard. Tu vois, c'était pour un autre complément.
Ah, ça finissait bien.
Non, après, la soupe que je t'ai servie, quand même, t'es dur.
C'est vrai.
Non, mais là, on m'envoie un scénario que je trouvais pas tant formidable. Après,
dès la lecture, il était...
Ah oui, mais okay. C'était un concept... En fait, c'est un remake, ce film-là.
Ah, j'ai pas. Non, sans que ce soit Noblesse.
Non, mais très lointain. Enfin, c'est une adaptation très libre d'un film mexicain.
Ouais,
non, sans que ce soit Noblesse. Qui lui-même était inspiré d'un film de Buñuel. Il est très très peu connu, mais bon, ils ont gardé le pitch qui est assez fort, quoi, et ils ont tout réécrit. Et
donc, le pitch étant, un homme riche fait croire à ses enfants qu'il devient pauvre pour leur donner une leçon,
il en prend une.
Et les autres n'étaient pas des comédies, les deux autres films, ou étaient
si,
déjà des comédies?
Si, c'était des comédies, mais moi j'ai vu 10 minutes, mais c'était sous-titré en allemand, en espagnol, donc, ouais, non. Mais je crois qu'ils l'ont vu une seule fois, et après ils se sont gardés, vraiment ils ont pris beaucoup de distance.
Comment travaille Nicolas Cuche? C'est une direction...
C'est calme, c'est hyper agréable, parce que c'est très calme, il n'y a pas de... Nicolas, tout est posé, tout est ok, on passe à là, machin, au truc. Donc des fois on se dit putain, mais on va jamais rentrer la journée qu'on doit rentrer là, parce que, et en fait si, tout rentre tranquille. Mais
ce qui est dingue, c'est que le film est totalement fou et part dans tous les sens, et que le mec lui est très calme.
Oui, il est très calme. Il fait de la méditation le soir. Et en même temps,
il fume énormément de weed.
Non, mais en même temps, il peut être très drôle, mais il est pas sûr, et c'est vrai que on se dit pas en fouette, on va déconner, mais c'est un mec sérieux, et en plus c'est un très bon monteur. Il a fait des tas de films, c'est lui qui a fait Les Bracelets Rouges, où il a découvert d'ailleurs Camille.
Il était formidable.
Ouais. Il a fait un film avec Virginie Efira, une comédie.
Virginie Efira?
Je me souviens plus, c'était à tout prix. Je sais pas quoi. Enfin,
Marie à tout prix, ouais, avec.
Ensemble.
Marie à tout prix avec Virginie. Dites-lui oui, sinon il va chercher.
Enfin, oui. Non, mais en plus on a. Après, il m'a dit, ouais, c'est avec Arthur. Je lui ai dit, oh, bon. Pourquoi pas? Et donc après on a fait des lectures, chacun dans notre coin, plus des lectures ensemble, et on a vu tout ce que ça allait marcher.
Vous, à la base, vous avez accepté quand on vous a dit qu'il y avait l'EB. Après vous avez découvert que c'est le fils, mais sinon vous avez accepté, c'était ça votre point de départ. Voici Tanguy Pastureau.
Le Mexique est un pays atroce. Il y fait trop chaud, le climat est moite, les moustiques font la taille de ta mère, et les gens parlent même pas français. Une fois l'an, des étudiants américains y viennent se péter la ruche, ainsi que Christine Bravo. Pour la distinguer, c'est celle qui à 3h du matin enjambe le corps des autres et leur dit « petit joueur ». Le Mexicain, comme tous les Latins, est agité et poilu. Il ressemble un peu à Marek Alter s'il avait sniffé de la colle. Alors parmi les stars du Mexique, citons le réalisateur Guillermo del Toro, dont les véganes par principe refusent de regarder les films, mais aussi Carlos Santana, un gratteux qui aime se tirer sur la corde, et Frida Kahlo, sosie de sourcils de mon chef Fifi, qui est morte à 47 ans, ce qui n'est pas du tout un âge pour mourir. Et je ne dis pas ça parce que j'ai 47 ans. Le Mexique, c'est inhospitalier. Vous croisez un membre d'un gang, il vous tire dessus. Vous allez vous plaindre à un flic, il vous tire dessus. Vous dites à la boulangère, non, mais vous savez que dans le sud-ouest, pan con chocolaté, on dit chocolatine. Elle vous tire dessus. À la fin, vous avez encore plus de trous qu'il y en a dans le CV de Samina Seri. Les Mexicains n'auraient donc que d'une chose, se tailler aux States. Là, ceux qui ont fait Koh-Lanta ont un avantage parce qu'il y a un mur à franchir. Mais il s'effrite vite, hein, parce que le nouveau locataire des États-Unis est un vieux qui a craqué sur le terrain mais n'a pas la force de l'entretenir. Donc une pichenette et le mur tombe. On se retrouve donc avec partout dans le monde des Mexicains qu'on reconnaît à leur grand chapeau. La Mexicaine la plus connue chez nous est Geneviève de Fontenay. Mais la plupart restent au Mexique, bien sûr, par flemme de bouger. Hein. Vous savez à quel point ces peuplades qui végètent au soleil sont indolentes. Enfin, on dit ça, mais en même temps, Björk, qui est islandaise et n'a vu le soleil que deux fois depuis 77, n'a pas sorti d'album depuis 5 ans. Cette feignasse. Alors rapidement, deux mots d'histoire du Mexique. D'abord, il y a eu les Olmecs, puis les Mayas, qui avaient leur propre calendrier. Hein, c'est le point commun qu'ils ont avec le facteur. Puis les Toltecs, moins connus. Et enfin, les Aztèques, un peuple nomade, hein, comme chez nous les Aoussiens, qui, selon la légende, devait construire une ville à l'endroit où il verrait un serpent manger un aigle au-dessus d'un cactus, donc à l'endroit où il y aurait de la drogue. Hein, en France, il serait installé de Porte de Saint-Ouen. Puis, en 1518, les Espagnols ont débarqué, ce qui n'est pas un code pour dire que quelqu'un a ses règles, avec à leur tête Hermann Cortés, un mâle alpha très à l'aise. Hein, il s'est tout de suite senti chez lui, comme cet ami que vous invitez et qui, à peine arrivé, s'enferme aux toilettes avec le thé 7 jours. L'empereur des Aztèques, lui, ne s'est pas méfié, parce qu'il pensait que les Espagnols, avec leur barbe et leurs chevaux, étaient des envoyés du dieu Quetzalcoatl. Hein, lui, Sébastien Tellier, sur un poney, il demandait à ses gars de lui faire une haie d'honneur. Mais Cortés, ayant un sens du dialogue social très limité, donc il a rasé la capitale aztèque et a fait construire à la place Mexico. Et bref, tout a commencé avec Christophe Colomb, hein, un type paumé qui voulait se rendre en Asie et a fini en Amérique. Enfin, chez Google Maps, quand ils pensent à lui, ils sont effondrés. Le loser, il l'appelle. En 1492, ce con pose un pied sur une île des Bahamas, puis le deuxième, parce que le bateau s'éloigne, il a beau être bon en grand écart, il y a un moment quand même où ça fait mal aux adducteurs. Hein, ensuite, toute la colonisation de l'Amérique découle de ce 12 octobre 1492. Jean-Pierre Alcabache qui débutait cette année-là, on avait parlé à la radio. Hein, mais bon, jusqu'à présent, à part 2-3 descendants d'Aztèques, Christophe Colomb était plutôt apprécié. Hein, il y a longtemps, Depardieu l'avait même incarné dans un film. On le voyait sur un bateau en train de râler puisqu'il n'était entouré que d'eau. Seulement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, les minorités comme les Indiens, les Noirs, les gays ou les membres du MoDem de François Bayrou ne se laissent plus faire. Or, à Mexico, il y avait une grande statue de Christophe Colomb, parce que vous savez que chaque pays a ses héros en statue. Hein, en Corée du Nord, par exemple, il y a 130 000 statues de Kim Jong-un. Une toutes les 16 centimètres. Hein, là-bas, il n'y a même plus la place de sortir pour acheter le pain. Sauf que Christophe Colomb au Mexique est de plus en plus contesté. À chaque manif, sa statue était taguée. Donc en 2020, ils l'ont déboulonnée officiellement pour la nettoyer. Et là, la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, alors c'est comme Anne Hidalgo, sauf qu'elle, elle a un service de nettoyage, bon, a annoncé que la statue ne reviendra pas. Pourquoi ? Parce que Christophe Colomb, niveau image, est passé de découvreur de l'Amérique à tueur d'Amérindiens. Ouais. Et il est mort depuis 600 ans, donc impossible pour lui de s'excuser en story sur Insta. Hein, le principal problème de la mort, c'est qu'on n'a plus le contrôle de son image. Toute votre vie, vous étiez nickel à faire des photos glamour sapées en deux fursac, et le lendemain de votre mort, il y a un type qui tweet « Ouais, en même temps, une fois je suis allé chez lui, il y avait un vieux 45 tours du Gambadou de Patrick Sébastien. » Et là, paf, tout s'écroule. Alors la statue de Christophe Colomb va être remplacée par une statue d'une femme Olmec, hein, ou d'un un homme Olmeuf, on sait pas trop. Femme Olmec, dont on ne sait rien. Hein, voilà, il y a des statues d'inconnus. Enfin, Olivier Faure du Parti Socialiste va pouvoir avoir la sienne. Parce que le souci est que 90% en fait des gens représentés en statue sont soit des chefs militaires, soit des chefs d'État, donc des criminels. Puisque par définition, tout peuple qui s'installe prend la place d'un autre qui était là. Quand en 92, Tic et Tac ont annexé Marne-la-Vallée, avant il y avait des Français. Hein, il n'y a pas de statue d'individu cool. Par exemple, une statue du groupe Sinsémilia en train de rouler un 12 feuilles en lançant la balle à un que des méchants. Et le problème, c'est que les mentalités évoluent, mais que les statuts restent fixes. C'est pas mal comme chute. Je crois que je vais rester là-dessus, ça va me faire passer pour quelqu'un qui réfléchit. Parce qu'à ma mort, il y aura suffisamment de gens pour dire que j'étais tout le contraire.
Merci, Tony.
Bravo.
La culture, Leïla Kadour vous l'a dit, au cinéma, il y a Pour y gâter le 15 septembre, et quoi d'autre ?
Et puis il y aura En thérapie, Le retour, la série du duo Nakash Toledano, qui a cartonné sur Arte, va connaître donc une saison 2, avec toujours comme si celui qu'on adore, c'est Frédéric Pierrot, dans le rôle de Philippe Dayan.
Ouais.
En revanche, on connaît déjà le nom de 3 nouveaux patients, c'est à vous de jouer.
C'est que des nouveaux ?
Des nouveaux, ouais. On reprend pas ceux de la saison 1.
Ok.
Deux des comédiennes.
Mélanie
Thierry, non. Deux des comédiennes ont un patronyme que vous connaissez. Parce qu'un père est passé par là.
Bien.
L'une est actrice chanteuse.
Actrice chanteuse.
Isia.
Loudoyant.
J'ai dit cela.
Non.
Emmanuel Béard.
Non plus. Elle a incarné la mère de Romain Gary.
Ah, Charlotte Gainsbourg.
Absolument. Oui. Charlotte Gainsbourg, première patiente. Une autre patiente dont vous connaissez bien le nom du patronyme, son père était à l'affiche de Titane récemment, je vous aide. Hein.
Lindon.
Béranger.
Ouais. Suzanne Lindon, Charlotte Gainsbourg, voilà pour les deux patients. Et le petit dernier, patiente, et le petit dernier, c'est donc un comédien que vous connaissez bien qui a incarné Cyrano, pas que. Attention, il y a plusieurs Cyrano.
Weber.
Absolument. Voici les trois nouveaux patients de la saison 2 dans Thérapie. Alors, si la première saison débutait après les attentats du 13 novembre 2015, cette deuxième saison, elle, va se tourner autour de la pandémie du Covid et de la crise sanitaire qui en a découlé. Est-ce que vous êtes, il y a une série en particulier qui vous tient en haleine en ce moment?
Là, j'ai essayé de continuer La Casa des Papel.
Ouais.
C'est dur. C'est très dur, du coup pas celle-là.
C'est décevant.
Tu me coupes tout parce que moi je voulais le faire le week-end prochain, mais c'est pas bien.
Ça tire en longueur.
C'est moins bien. Ouais, objectivement c'est moins bien. Mais sinon non, en thérapie j'ai vraiment aimé. Et évidemment le Bureau des Légendes qui restera la meilleure série.
Et Gérard, c'est vrai.
Le Bureau des Légendes. Non mais non, moi j'ai fini là le truc qui m'a beaucoup plu, c'est le Lotus Blanc, qui est une sorte de bronzé trash qui se passe.
C'est sur HBO, c'est ça?
C'est HBO, enfin sur la plateforme Canal. Et c'est assez épatant.
Lotus Blanc.
Lotus Blanc, oui.
Très bien. Au cinéma, le 15 septembre, je le rappelle, cette comédie, signée Nicolas Cuche, pour y gâter avec Gérard Jugnot et Artus qui sont nos invités. Héros du jour, c'est maintenant Daniel Morin.
Absolument. Le héros du jour, attention, les amis, aurait pu facilement être Tyson Gilbert. Tyson Gilbert est sorti de l'hôpital hier et ce matin, je me demande bien ce qu'il compte faire de sa journée. Il est intéressant ce gars. Fin août, il est au volant de sa voiture chez lui aux États-Unis. Il fait une pause sur le bord de la route et comme l'endroit est plutôt dangereux à cause du trafic, une voiture de police qui passait par là s'arrête pour lui parler. Et là, le Tyson, il panique, il remonte dans sa caisse, il s'enfuit. Poursuite, sirène, tout le bazar, ça dure pas très longtemps. Tyson Gilbert finit par s'arrêter, il sort de la voiture, les mains en l'air, tout va bien, mais il est tout ensanglanté. Ah, ça va pas si bien que ça. Que s'est-il passé dans la voiture? What the fuck happened in the car? Qu'est passé en el coche, cabrón?
Oui, ça va, on a
compris. Pris de panique, il s'est coupé le pénis et l'a jeté par la fenêtre.
Mais non.
Mais ouais, pourquoi ce geste fou?
Histoire vraie?
Porque te vas? Absolument.
Je sais pas, ça choque quelqu'un?
Non, c'est pour ça que je suis obligé d'expliquer.
Ça repousse, hein.
Il a déclaré, j'ai entendu une voix dans mon autoradio qui me disait de m'automutiler.
Mais non, quelle horreur.
Alors il écoutait pas France Inter, je ne pense pas. À moins qu'à l'antenne, il y ait des programmes sur l'automutilation. Des programmes prise de tête, oui, ça peut arriver. Mais des programmes coupage de pénis, je ne crois pas. Alors, quand on peut se couper le zizi au volant, que fait-on le jour de la sortie de l'hosto? Du coup, mon héros n'est pas Tyson Gilbert, puisqu'aujourd'hui, il ne s'est encore rien tranché. Non, mon héros est le sympathique Jair Bolsonaro, le président brésilien. J'aime son côté
festif. Le dictateur,
festif.
on dit pas président.
Du tout. Samba, cocktail, carnaval, Kalinu, MST. Bien sûr, bien entendu, mais pas que. Jair est mon héros, eh bien parce que c'est un homme d'action. Donné largement perdant pour la prochaine élection, dans moins d'un an, il a déclaré hier que le système de vote était totalement pourri et qu'il refusait de participer à une telle farce. Aujourd'hui, il va donc proposer quelques changements dans le mode de scrutin. C'est un exemple pour moi, ce genre de mec. Un truc qui lui plaît, il lui plaît pas, il le change. Je vous rappelle que Bolsonaro, c'est le gars qui déforeste comme un dingue toute la forêt amazonienne, qui autorise, pour ne pas dire encourage, la police à tirer sur les délinquants et qui insulte publiquement les autres chefs d'État. Pour moi, c'est clairement un modèle. Nagui, vous savez, j'aime les tyrans. Du coup, c'est mon héros du jour.
Merci, Daniel Morin. C'est l'heure de The Artist. Ce samedi, on sera le 11 septembre à 20h40 sur France 2. J'aurai le plaisir de vous présenter en direct cette émission avec des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes qui viennent vous présenter leurs chansons et faire des reprises. Vous pourrez gratuitement dire si vous aimez ou non ces univers-là. Et justement, on les découvre avec toi, Leïla. Et aujourd'hui, il s'agit de...
On va parler de Manon Gilbert qui a trouvé son blas. Ce sera Petite Gueule parce qu'elle en a une grande et qu'elle est toute petite, 1m54. Et une gouaille d'enfer.
Vas-y, m'énerve pas, toi, ça m'énerve. La petite voix qui me dit ce que je dois, ça m'énerve. Qu'on se mette dans des cases comme ça, ça m'énerve. Le temps qu'on perd à douter de soi, si je l'avais écouté, je serais passée à côté de moi.
Pour raconter son quotidien et les relations humaines, Petite Gueule utilise le piano, le triangle, la harpe électronique, mais aussi les crayons de papier, les cahiers à spirale et son dictionnaire de rimes. C'est ainsi qu'elle rappe et qu'elle développe cette hargne propre à son tempérament, comme elle le raconte si bien dans son titre qu'on vient d'entendre, ça m'énerve.
Et auteur, compositeur, interprète à nouveau.
Absolument. Marc le dit avec humour, il n'est ni David Hallyday, ni Jésus de Nazareth. Il n'est donc ni le fils d'une rockstar, ni celui de Dieu, mais il est le fils de sa mère, Carmela. Cara pour ses proches. Fils Cara, c'est donc son nom. C'est son nom de scène.
Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais. Ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est.
Je laisse les wagons dévaler le cours du temps. J'observe en fumant la brume au bout du quai.
Petit côté l'homme pâle.
Ouais.
Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais. Ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est.
Une autre artiste.
On va parler de Claire Hardy qui chante ses chagrins d'amour, ses problèmes d'adolescente et sa solitude. Et putain, putain, c'est le nom de sa compo. On n'a pas toujours le moral quand on a 25 ans.
Putain.
Artus, non, mais non.
Ouais.
Hein,
c'est bien ça.
Ouais.
C'est quoi ça,
c'est... Oui, c'est une émission que je vais faire avec France Inter et France 2 samedi en direct, et on présente comme ça les jeunes talents, et la dernière, la plus jeune,
c'est la Benjamine, deuxième artiste, elle s'appelle Colline Capel, elle a 17 ans et elle arrive du nord de la France, elle vient de décrocher son bac mention flemme.
Je fais des erreurs, je fais des erreurs pour arrêter tourner en rond.
Voilà, ce sont des auteurs, compositeurs, interprètes qui viennent proposer leurs chansons et des reprises, mais qu'ils intègrent dans leur univers, à leur manière. Et puis tous les jours de la semaine, à partir de la semaine prochaine, Leïla présentera sur le canal 14, entre France 4 et Culture Box, des masterclass où des artistes comme Clara Luciani, Laurent Voulzy, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, Ladislas Chola pour la tenue sur scène, vont donner des masterclass à ces talents. L'idée n'est pas de les coacher, l'idée est plutôt de transmettre... pour qu'ils tirent des leçons et se servent, voire font grandir leurs défauts. C'est important d'avoir un défaut qui justement marque une différence et de s'en servir. Non,
du coup, c'est une émission de talent avec des coachs, c'est ça?
Non,
non, mais c'est pour savoir.
Des auteurs, pas
des coachs.
Ça n'a rien à voir avec ça.
Et on vote le samedi.
Ah, on vote.
Mais c'est gratuit.
On vote, ce sont des auteurs, compositeurs, interprètes. La nuance est importante parce que...
Non, non, mais en plus, ça s'entend.
C'est eux qui écrivent. C'est eux qui écrivent. Et c'est pas celui qui va faire péter les vues maîtres.
Très bien.
Mais je prends très très bien la vanne, tu ne reviendras plus dans cette émission.
Et on vote.
Et blague à part, on vote, oui, totalement. Et les masterclass sont...
C'est pas payant.
Non.
Et c'est pas payant.
Et c'est pas payant. Et les masterclass sont pas là pour diriger. Ouais. Parce que je pense que quand on est auteur, compositeur, interprète, on est Renaud au début de sa carrière ou
Gabriel,
où il n'avait pas forcément à entendre des cours ou à être coaché.
Il faut faire de ses défauts ses qualités.
Exactement.
Non, mais en tout cas, ça a l'air vraiment...
Ils ont du talent, ceux-là.
Non, mais ouais, c'est bien.
Bah, c'est gentil de le dire.
On les présente depuis le début de la semaine.
Il y en a une qui est pas ouf.
Et pour faire...
c'est la numéro.
Et pour faire le clin d'œil jusqu'au bout, on a choisi le titre de The Artist, en référence évidemment au film. Clin d'œil, d'abord un film français, mais aussi pour la notion d'artiste complet, être capable d'écrire et d'interpréter. Ce que vous faites sur scène aussi, Artus, vous écrivez, vous mettez en scène votre spectacle, c'est même vos parents qui vous ont poussé à le faire. Est-ce que le confort est vraiment, vous sentez une différence entre ce qui est fait sur mesure par vos propres soins et ce que vous jouez pour les autres? Et vous y prenez autant de plaisir dans l'un comme dans l'autre?
Ouais, après,
comme faire des reprises et écrire ses chansons finalement.
Exactement. Non, mais dans la comédie, c'est sûr que c'est plus agréable quand on écrit ces choses, surtout moi dans ce que je fais où j'ai tendance à aller un peu loin sur des sujets comme le handicap, le machin, le truc. Voilà, où c'est rare qu'on me propose des textes comme ça. Où de dire, là, tu vas faire un trisomique, tu vas faire un mec qui...
Alors, c'est parce qu'on vous le proposait pas que vous l'avez écrit.
Aussi. Mais après, les deux exercices sont cool. Par exemple, le Bureau des légendes. Évidemment, on change pas une ligne, on change pas une virgule sur le bureau. Et du coup, ça fait travailler autre chose, d'une autre rigueur, un autre. C'est vraiment un autre exercice de se mettre. Donc voilà, il faut vraiment que je dise ce mot-là.
La pièce Duel à David et Jonathan continue en tournée. Ça sera à partir de février 22, c'est ça. Il y a plein de dates, Aix-les-Bains, Lorient, Saint-Brieuc, Lens, Troyes, Le Havre, Rouen, Toulouse. C'est le plaisir de retrouver la scène grâce au pass sanitaire et de dire on peut y retourner.
Ouais, et puis surtout c'est toutes les dates. C'est toutes les dates qu'on a décalées du Covid. Donc
vous allez le jouer très très longtemps encore ce spectacle.
Honnêtement, à la base il devait se terminer. Ouais. Il devait se terminer fin juin.
Il faut que tout le monde le voit.
Parce que après moi je me concentre un peu plus sur le cinéma en ce moment, et donc la pièce devait se terminer, sauf qu'il y a eu un petit virus qui est arrivé. Et du coup, toutes ces dates-là, c'est des dates qu'on peut pas annuler. Et qu'il faut les faire. Mais donc, c'est bien parce qu'on va y retourner. Mais je sais même plus à quoi ressemble la pièce.
Le 3 novembre, il y a si
on chante. Texte de cette pièce.
Le 3 novembre, il y a si on chantait avec Clovis Cornillac et Alice Paul. Le 30 mars prochain, au printemps, il y aura J'adore ce que vous faites avec Gérard Lanvin et Antoine Bertrand. Et quant à vous, Gérard Jugnot, Le Petit Piaf, c'est votre nouveau long. Racontez-nous.
Oui, c'est un film que j'ai réalisé l'été dernier à La Réunion. Et c'est un très, très joli film dont je suis très fier aussi. Qu'on a présenté là, une fois à la Baule.
Il y a Marc Lavoine.
Et j'étais très, très heureux parce que c'est le plus beau prix. Ça. Oui, il y a Marc Lavoine, il y a Stéphie Selma, le petit Sohan qui a gagné Voice Kid. Et Philippe Buchen. Et moi, je joue un petit rôle dedans aussi.
Et l'idée, justement, est autour de la chanson ?
Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon
qui rêve d'être chanteur,
qui rêve de faire une émission qui s'appelle Star Kid, et donc il y a sa
petite. Ah, vous avez pas eu les droits.
Ses deux petits amis qui sont des gamins des rues, ils se disent si jamais il fait ça, peut-être que on pourra avoir une famille d'adoption, et ils rencontrent un chanteur un peu à la ramasse que j'accueille dans mon hôtel. Qui est joué magnifiquement par Marc. Ils vont vouloir être coachés par ce garçon.
Et ça sort quand ?
Ça va sortir un jour, à Pâques, je crois. Il y a un peu de choses sur les étagères. Mais c'est une sorte de transmission encore, et ça va lui redonner le courage de recomposer des pièces, des musiques.
Pour y gâter sort le 15 septembre, mercredi prochain au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel.
Déjà, désolé pour les auditeurs historiques de France Inter, habitués aux anciennes grandes signatures de la station, comme Jacques Chancel, Michel Pollack, et qui ce matin ont entendu une petite dizaine de fois parler de balles dans le cul, agrémentées de quelques bons mois le cul. Alors voilà, c'est ça, le nouveau France Inter, le déclin, la descente aux enfers. W9, énergie 12, enfin bref. Désolé pour nos auditeurs qui nous reprochent de n'inviter en cette rentrée que des anciens ou des proches du Splendide. Martin Lamotte la semaine dernière, vous aujourd'hui, Thierry Lhermitte en octobre, mars, juin. Heureusement que Christian Clavier nous trouve un peu trop à gauche, sinon ce serait la totale. Désolé enfin pour l'ambiance sordide de l'émission de ce matin, entre ça...
Leur pas boulot.
Et les souvenirs glauques de Gérard Jugnot, c'est vrai que c'était sordide et ça ira pas mieux demain. Attention, on reçoit Florence Foresti.
Ah, bonne nouvelle. Merci Artus.
Est-ce que je peux dire un petit mot parce que je sens que c'est la fin. Je voudrais faire une déclaration d'amour à Leïla parce que à chaque fois je trouve que il y a de moins en moins de bons journalistes et c'est toujours un plaisir de venir dans une émission où il y a Leïla parce qu'elle vient voir les spectacles, elle débriefe bien des trucs, elle parle. On sent qu'elle s'investit dans ce qu'elle fait.
C'est
assez rare pour le souligner, donc je voudrais, voilà.
Et c'est vrai, je m'associe.
C'est vrai? Non, mais parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent rien, qui écoutent rien et qui lisent rien.
Tu peux l'appeler Nagui.
Merci.
Et en plus, ils ont la faiblesse de beaucoup aimer notre film.
En plus, qui tombe bien.
Pour y gâter, c'est maintenant tu es pour y gâter par ses compliments.
C'est bon, tu m'as fait la semaine, Artus.
Passez une bonne journée. Philippe Bertrand, le voici avec les carnets de campagne. À demain. Salut.